Mais bien, chers amis, quel est le problème le plus général de la vie courante? S'il s'agit des individus, des familles, des municipalités, des commissions scolaires, des fabriques paroissiales, de tous les corps publics comme des institutions privées, le casse-tête général, c'est le problème financier, trouver de l'argent. Problème d'argent, problème ni naturel ni surnaturel. Cultiver des légumes, élever des animaux, remplir les magasins de produits, transporter des hommes ou des choses, trouver des bras et du matériel pour bâtir, voilà ce qui pourrait être des problèmes naturels. Or, ils sont tous vite réglés aujourd'hui. Mais le problème d'argent, problème que ni le bon Dieu ni la nature n'ont fait, problème artificiel fait de main d'homme, tout le monde s'en plaint et on continue de le subir comme on subit une sécheresse ou un ouragan. Si c'était du blé qui manquait, on dirait « semons du blé ». Mais quand c'est l'argent qui manque, avec toutes les souffrances et les privations humaines que cela impose, même devant les magasins pleins, au lieu de dire « faisons de l'argent », on continue de gémir. Il y a je ne sais quoi de sacré autour du mot « argent », la chose pourtant la plus simple à produire quand ceux qui en ont l'autorité décident de le faire. On en a eu l'exemple en 1939. Depuis 10 années, toutes les nations civilisées étaient dans ce qu'on appelait la crise. Pas une crise de produits ni de bras, on avait trop de tout cela. Pas une crise de température ni de providence, et rien n'était changé de ce côté-là. Mais une crise d'argent. Individus, compagnies, gouvernements manquaient d'argent. On chômait faute d'argent pour payer le travail. On n'achetait pas faute d'argent pour payer les produits. Pourtant, tous ces pays-là embarquèrent prestement dans une guerre majeure, et une guerre moderne majeure demande des milliards. C'est alors qu'on vit disparaître la magie de l'argent. Dans tous les pays en guerre, on fabriqua tout l'argent qu'il fallait pour conduire la guerre, au fur et à mesure qu'on en avait besoin, tant qu'on avait des hommes et du matériel pour mener la guerre. Le pas d'argent qu'on entendait tous les jours avant la guerre ne fut pas prononcé une seule fois pendant la guerre. Quand l'Allemagne capitula, ce ne fut pas à cause du manque d'argent, mais à cause du manque d'hommes et de matériel pour continuer. Comment donc le monde passa-t-il ainsi subitement de la crise d'argent à l'abondance d'argent pour la guerre? Comment? Mais en produisant l'argent qui manquait, en abandonnant pour la guerre ce que Roosevelt appelait le non-sens financier qui avait paralysé la vie économique pendant les années de paix. On eut immédiatement la preuve que les piastres ne sont point une ordonnance du ciel ni de la nature. Les piastres ne sont point une affaire compliquée à produire, puisqu'elles ont surgi du jour au lendemain, dès qu'on a secoué le non-sens financier pour entrer hardiment dans la grande tuerie mondiale. Pour avoir de l'argent, ni le gouvernement canadien ni aucun autre gouvernement n'ont envoyé les hommes dans les mines d'or. Les hommes, c'était pour l'armée, pour les munitions, et un grand nombre de femmes aussi. Pour avoir l'argent, le gouvernement n'a même pas engagé d'imprimeur pour imprimer des dollars. C'est beaucoup plus simple que cela. Il a demandé au banquier de lui faire de l'argent. En faire? Mais oui. Depuis longtemps, les gens n'en avaient plus. Ils ne pouvaient donc pas en épargner et en porter à la banque. Les réserves des banques étaient passablement à flot. Et pourtant, il fallait des millions, il fallait des milliards. Pas d'autre solution que d'en faire. Pour faire l'argent voulu, les banques n'ont même pas eu à emprunter une nouvelle méthode. Elles ont simplement employé la même technique qu'elles emploient toutes les fois qu'elles prêtent de grosses sommes d'argent à des industriels ou à des corps publics. Dans ces occasions-là, elles font l'argent qu'elles prêtent. Elles créditent l'emprunteur sans débiter personne. Vous savez tous ce que c'est qu'un compte de banque. Quand vous en avez un, vous pouvez payer sans sortir de l'argent de votre poche. Vous signez un chèque, Celui qui reçoit votre chèque peut le déposer à sa propre banque. Qu'arrivera-t-il? Votre compte sera diminué et le sien sera augmenté. Il n'y aura eu besoin ni d'or, ni d'argent blanc, ni nickel, ni carte en papier. Rien qu'une addition dans un compte et une soustraction dans un autre compte. Et c'est aussi bon. C'est avec cela que marchent les grandes affaires. C'est avec cela qu'on a financé la guerre. Mais, direz-vous, pour avoir un compte de banque, il faut épargner et déposer. Cela, c'est une méthode, mais il y en a une autre, celle des emprunts. Supposons que je sois un gros industriel. Je veux agrandir mon usine. Il me faudrait tout de suite, disons, 100 000 $. Je vais de la banque, je m'arrange avec le gérant pour un emprunt de 100 000 piastres. Il me demande des garanties, évidemment. Mais je n'apporte pas un sou à la banque. Le gérant me signe un papier, je vais au caissier, je dépose ce papier, le caissier ouvre son livre à mon compte et il inscrit à mon crédit 100 000 piastres. Je sors de la banque avec un compte de 100 000 piastres sur lequel je pourrai tirer des chèques au fur et à mesure que j'aurai des paiements à faire. Voyez-vous, je n'ai pas fait ce compte-là par la méthode des épargnants. Sans apporter un sou à la banque, je sors quand même avec un compte de 100 000 piastres, tout comme si j'avais apporté et déposé cette somme. Ce qui est remarquable encore là-dedans, c'est que pour me prêter cet argent-là, le banquier n'a pas sorti un sou de son tiroir et il n'a pas diminué d'un seul sou le compte d'un seul autre étudiant. Tout le monde en a autant qu'auparavant et moi j'ai 100 000 piastres de plus. Un beau 100 000 piastres enlevé à personne, sorti de nulle part et mis dans mon compte. C'est un 100 000 piastres d'argent tout neuf, tout en chiffres, mais aussi bon que de l'or pour payer n'importe quoi. Ce 100 000 piastres a été fabriqué par le banquier avec sa plume et une goutte d'encre, après qu'il a consenti à le faire. Une décision, un peu d'encre et c'est tout. Le gouvernement qui manque toujours d'argent ne fait pas cela. Il se trouve inférieur au banquier. Évidemment, j'aurai à rembourser 100 000 piastres au banquier, même un peu plus à cause de l'intérêt. Quand je rembourserai, j'aurai retiré de l'argent de la circulation. Le fonds total à chèque dans le pays sera diminué de 100 000 piastres et un peu plus. L'argent commence donc quand le banquier prête ce qu'il appelle des crédits et qui est le principal argent moderne. Puis l'argent finit quand on le rembourse à la banque. Comme il faut que les remboursements soient plus gros que les prêts, il faut qu'il y ait continuellement d'autres emprunts nouveaux par derrière, autrement, il y aurait bien vite plus du tout d'argent dans le pays. On vit donc avec de l'argent emprunté quelque part dans le système bancaire. Donc, parce que des individus ou des compagnies ou des corps publics s'endettent. Quand les prêts sont plus rapides que les remboursements, l'argent devient plus abondant. Quand les prêts deviennent plus difficiles et qu'il faut rembourser quand même, l'argent en circulation diminue. On appelle cela restriction du crédit. Si la restriction du crédit est aiguë et se prolonge, on appelle cela une crise et le monde souffre devant une possibilité de production abondante. L'argent est fait pour payer, pour acheter. C'est essentiellement un titre donnant droit à des produits ou des services au choix. Ce titre est fait de chiffres, chiffres gravés sur du métal ou imprimés sur du papier pour l'argent de poche, chiffres inscrits dans des comptes de banque pour le commerce et l'industrie. Vous connaissez d'autres chiffres qui s'appellent prix. Ils sont inscrits sur des étiquettes qui accompagnent les produits. Les chiffres qui sont des prix viennent aussi vite que les produits et en rapport avec les produits. Mais les chiffres qui sont de l'argent dans nos poches ou dans nos comptes de banque ne viennent point du tout aussi vite que les produits ni en rapport avec eux. C'est pour cela que tout le monde se plaint. C'est pour cela que des gens se privent devant des produits abondants. C'est pour cela qu'ils s'endettent et prennent des années à payer ce qui se fabrique pourtant en quelques jours, parfois en quelques heures. C'est pour cela que les municipalités, les commissions scolaires et d'autres corps publics sont toujours aux prises avec le manque d'argent ou avec des dettes, ne pouvant pas taxer davantage des gens qui manquent déjà d'argent pour faire vivre convenablement leur famille. C'est pour cela que des maisons sont vendues pour les taxes. C'est pour cela que des produits agricoles se vendent mal ou pas du tout, alors qu'ils sont bons et désirés, parce que ceux qui les voudraient n'ont pas de quoi les payer. C'est pour cela qu'il y a des chômeurs qui aimeraient pourtant bien travailler, et il y a tant de choses à faire, mais on n'a pas de quoi les payer. C'est pour cela que les gens se chicanent partout, qu'ils cherchent à s'arracher les uns des autres l'argent qui est trop rare, alors qu'ils ne se chicanent jamais autour des produits dans les magasins, parce qu'ils sont abondants. La solution saute aux yeux, ce serait de mettre l'argent au même port que les produits. Beaucoup de produits, beaucoup d'argent. Production facile, argent facile. Produits devant les familles en besoin, argent devant les familles devant les produits. Que le crédit financier, argent moderne, soit mis au monde selon les besoins et selon les possibilités de la production, par une banque nationale ou par un organisme monétaire national ou provincial établi pour le service et non pas pour le profit. Tout comme la justice et les autres ministères publics existent pour le service de la nation ou de la province et non pas pour le profit personnel des ministres ou des juges. Cet assouplissement de la finance au service de la production et de la distribution des biens répondant aux besoins humains, cet assouplissement nécessite une réforme du système financier dans le sens des propositions énoncées par Douglas il y a 50 ans et généralement connues sous le nom de crédit social. Ne pas confondre avec des partis politiques qui se permettent de prendre ce nom et peuvent être n'importe quoi. Cette réforme faciliterait à chaque personne la poursuite de son propre épanouissement. Elle libérerait les familles et les institutions de l'incessant recours à l'État qui les fait perdre leur liberté à cause d'une insuffisance financière. Elle permettrait aux compétences de donner libre cours à leurs propres initiatives au lieu d'être astreintes à s'embaucher dans des industries mastodontes qui les dépersonnalisent. Une foule d'autres possibilités d'ordre individuel, familial et social font de cette conception de la finance un objectif d'une importance primordiale qui mérite tous nos efforts pour la faire prévaloir.
Le journal Vers Demain tiendra un congrès à